Bonjour, grand portage. Politique.
Oui, à 8h30, on va aller rejoindre Marie-Ève Proulx. On est lundi. Salut Marie-Ève.
Bonjour Kevin.
Passez une belle fin de semaine.
Très belle fin de semaine. Et toi-même?
Oui, oui, très, très belle fin de semaine. En famille, on peut pas demander mieux. Marie-Ève, tu voulais revenir sur le rapport de la commissaire à la santé, Joanne Castonguay, concernant le soutien à domicile.
Oui, c'est un sujet qui me préoccupe depuis plusieurs années. Puis l'automne dernier, j'en avais parlé un peu lorsque la ministre avait investi quand même plusieurs millions de dollars là pour donner un coup de barre dans le soutien à domicile. Je pense qu'à ce moment-là, je disais qu'il fallait laisser la chance aux coureurs. Puis Mme Bélanger, la ministre des Aînés, quand même a de l'expérience dans le système de santé.
Par rapport au... Est-ce que tu m'entends, Kevin?
Oui, je t'entends très bien.
Tu m'entends très bien. Attends un peu, moi, je t'entends plus. Excusez-moi. Oui, OK. Excuse-moi.
Ah, la technologie.
Les écouteurs ont lâché.
La technologie, ça arrive.
Ce qu'on apprenait, c'est que le soutien à domicile est tellement important que c'est 91% des gens de 55 ans et plus qui désirent demeurer à la maison en vieillissant.
Ouais.
En région, visiblement, là, c'est d'autant plus important et crucial parce que nos racines sont plus grandes. On le sait, c'est même démontré. Mardi dernier, la commissaire à la santé, qui s'appelle Joanne Castonguay, présentait son tome 4 sur les soins à domicile au Québec. Imagine, entre mars 2023 et janvier 2024, elle a écrit 4 tomes pour faire un portrait exhaustif des soins à domicile. Le titre de son dernier, le tome 4, s'appelait « Une transformation s'impose ». C'est quand même pas rien. Juste pour vous donner le portrait qu'elle dresse suite à son diagnostic, c'est que l'écosystème de soutien à domicile est construit sur des assises fragiles. Il est complexe, peu intégré et peu performant, c'est-à-dire qu'il va travailler seul. Les gens qui travaillent dans le domicile vont travailler seuls, vont pas toujours travailler en collaboration et ne donnent pas les résultats escomptés. Il est basé sur des programmes et des mesures ayant des conditions d'éligibilité variables. Donc, on peut voir des distinctions entre les villes, les municipalités, les régions, des conditions d'admissibilité et d'éligibilité différentes. Donc, ça aussi, ça amène tout un casse-tête sûrement à gérer. Finalement, selon la commissaire, l'écosystème serait financièrement peu soutenable. Bref, la commissaire est catégorique. Si rien ne change, les services de soutien à domicile seront intenables par le système public quelques années.
Ah oui, c'est inquiétant ça.
Oui, vraiment. Parce qu'on sait, hein, puis en plus pour des régions comme les nôtres, là, comment les gens veulent rester chez eux, dans leur région, veulent pouvoir étirer le plus longtemps possible. Puis il n'y a pas juste la volonté des gens. Tu vas comprendre aussi, Kevin, qu'il y a d'autres motivations à pousser sur le soutien à domicile. D'un point de vue budgétaire, c'est environ 5%, puis ça c'est selon la commissaire, puis selon la ministre Bélanger, ça serait 8% du budget de la santé qui serait réservé au soutien à domicile. Au Canada, le Québec fait figure basse puisqu'il est dans les dernières provinces là en termes d'investissement en soutien à domicile. En ce moment, le gouvernement du Québec ne répondrait qu'à 10,7% des besoins en heures de soutien à domicile. Ça veut dire que 90% de personnes qui ont fait des demandes puis qui ne reçoivent pas les soins appropriés. Pour moi, c'est inquiétant. C'est pas des chiffres faciles à lire, disons-le. En termes de dépenses, écoute bien, celle-là est intéressante aussi. Le coût annuel moyen pour une personne qui reçoit des services de soins à domicile est à 13 900 $ en 2023. Une personne qui va en hébergement, par exemple dans un CHSLD ou une maison des aînés, il en coûte entre 67 000 et 96 000 $ par année. C'est une grande différence. Là, on passe de 13 900 à une moyenne de 75 000 $ par année pour une personne en résidence versus une personne en soutien à domicile. Imagine si on arrivait à maintenir le plus longtemps possible des gens chez eux, les économies d'échelle qu'on ferait.
Ouais, ben oui.
Puis en plus, les gens, c'est pas juste une question d'économie dans ce cas-ci, c'est que les gens veulent rester chez eux. C'est magique, là. On a comme une combinaison gagnante.
Mais j'ai l'impression, Marie-Ève, que ça ne fait pas nécessairement partie toujours des priorités du ministre de la Santé. Puis on peut parler des gouvernements antérieurs, pas seulement de la CAQ. J'ai l'impression que le soutien à domicile, oui, on en parle, mais ça fait jamais vraiment partie de nos préoccupation centrale ou principale.
Tu as tout à fait raison et je me situe à la même place que toi. Puis malheureusement, même les groupes qui travaillent autour du soutien à domicile puis le milieu de la santé, les syndicats, ce qu'ils disent, c'est « donnez-nous de l'argent, on veut de l'argent ».
Ouais.
Puis le problème pour moi, là, je le dis souvent, c'est comme ça aussi dans d'autres secteurs. C'est pas le manque d'argent, c'est la façon dont on l'utilise, cet argent-là. Je pense que l'assiette financière, elle est là. Maintenant, comment on l'utilise? Puis c'est pas vrai que c'est en injectant des sommes supplémentaires et encore, évidemment, en 2016, il y a eu des coupures drastiques dans tous les services et particulièrement dans les soutiens à domicile, il faut se le dire, avec la réforme Barrette. La CAQ, depuis 2018, a réinjecté beaucoup d'argent dans les soutiens à domicile, mais on s'aperçoit que le modèle, comment ça fonctionne actuellement, puis c'est ça que la commissaire met en avant, là. Elle dit que là, le modèle, ça fonctionne pas du tout, qu'on s'en va dans un mur. La commissaire, elle disait ça clairement comme ça dans son rapport, que le système vient d'une autre époque, puis qu'il y a des changements majeurs qui s'imposent. Puis il y a des initiatives dans la région ici, il y a des initiatives partout au Québec, dans d'autres pays. Hein, on cite souvent les pays scandinaves, puis eux, ils ont vraiment tout un rapport avec leurs aînés. Il y en a plein d'expériences. Là, on n'a pas besoin de réinventer le bouton à quatre trous, on n'a qu'à s'inspirer de d'autres, de projets qui existent pour mettre de l'avant ça.
Ouais.
Dans son rapport, la commissaire, puis tu sais, tu as tout à fait raison aussi, là, je veux juste revenir sur ce que tu as dit, c'est une question de priorité politique. Si on met pas ça en avant, parce que là, les lobbies des médicales pour les urgences, pour l'occupation des lits dans les hôpitaux, sont bien plus importants que tout autre projet ou problématique qu'on vit, malheureusement, dans notre système. Mm. Si le lobby du soutien à domicile était plus fort, puis si toute la population s'élevait pour dire c'est ça que ça prend, puis pourtant,
ça, t'as tellement raison.
Je comprends pas comment on peut pas vouloir investir là-dedans quand on voit les économies qu'on peut faire puis pour offrir de meilleurs services. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Puis c'est la même chose quand on parle de favoriser le, tu sais, je t'en ai déjà parlé, là, favoriser la pratique d'activité physique, puis bien mieux manger, mieux dormir, pour prévenir les maladies chroniques comme le diabète, comme les maladies cardiaques. C'est la même chose pour le soutien à domicile. Est-ce que, puis la question que je pose, là, je vais revenir aux recommandations, mais moi, la question que je pose, c'est est-ce que ça a une raison d'être dans le système de santé encore, ces soins à domicile-là? Est-ce que ça devrait pas plutôt être géré par un ministère à part? Où on investit vraiment les services à l'extérieur. Ce serait des gens quand même qui proviennent du milieu de la santé qui offriraient les services, on en a besoin. Mais que ce soit géré dans une méga structure mammouth comme le ministère de la Santé, on le dilue complètement puis on perd l'effet de ce qu'on recherche en soutien à domicile. Pour moi, c'est indéniable.
Ouais, c'est intéressant. Fait que, oh oui.
c'est moi, j'en suis rendue là de plus en plus. Même chose pour la... comment on valorise la pratique sportive chez un plus grand nombre, parce qu'on sait que pratiquer des activités sportives une demi-heure par jour, là, ça coûte pas cher, puis pas long, aller prendre une marche de 30 minutes, mais la majorité des gens le font pas. Faut mettre ça dans la culture, là, mais c'est pas le système de santé qui le fait. Toutes les politiques sont très belles, très bonnes en prévention, mais on les applique pas. En tout cas, c'est un autre sujet. Je reviens, excuse-moi Kevin, je dévie un peu aujourd'hui, c'est un sujet passionnant. Je pense que ça t'intéresse toi aussi. Hein?
Ouais. Surtout que ce qui est frustrant, c'est que on sait que tu l'as mentionné à deux reprises, on sait que les économies seraient là, les solutions on les connaît. Maintenant, c'est juste au gouvernement, ministre de la Santé particulièrement, de mettre ses culottes et de dire bon, ça devient maintenant une priorité. Et par la suite, le reste devrait se faire correctement.
Exactement. Puis d'ailleurs, la commissaire propose 16 recommandations dans son rapport, ouais, qui sont très pratico-pratiques. Là. Ça prend pas là, la tête à Papineau pour mettre ça en place, entre toi et moi. Puis je vais t'en nommer 5. J'en ai relevé 5 qui m'ont interpellée. La première, c'est ça appartient au rôle politique, mais où on doit impliquer tout le monde. C'est d'élaborer une politique ayant pour but de maintenir l'autonomie des aînés. Elle souligne à grands traits que le vieillissement n'est pas une maladie. Puis on est au Québec, c'est comme si on traitait le vieillissement comme une maladie.
Ouais.
Ça, c'est peut-être l'erreur de garder ça dans le système de santé. Vieillir, là, ça fait partie du processus humain. comment on peut faire pour avoir un beau vieillissement, un beau processus. On commence à avoir des belles images de personnes qui vieillissent en santé, heureux. Je pense, moi, naturellement, à Jeannette Bertrand. Mais c'est toutes des modèles. Comment on pratique l'activité physique en vieillissant? La littérature manque cruellement sur le sujet. On traite là, le vieillissement comme une maladie ou tu sais, sur le chemin de la mort, plutôt que toutes les beautés qui pourraient être associées à ça. Déjà, d'avoir une politique de maintien d'autonomie chez les personnes vieillissantes, ça serait le point de départ de beaucoup de choses. Le deuxième recommandation que j'ai retenue, c'est de charger des frais pour certains services comme l'entretien ménager et les soins personnels. Les coopératives de soutien à domicile au Québec là, font un travail magistral, soutiennent énormément le système de santé publique avec leurs services. Selon une enquête web réalisée là, dans le cadre de ce rapport, on mentionne que 78% des répondants disent être en faveur de payer davantage pour les services. Donc ça aussi, c'est intéressant. Les gens sont prêts à payer plus pour avoir des services supplémentaires et ce qui va favoriser de rester à la maison. C'est ça la priorité des gens. Donc, c'est assez clair, là, la volonté est là. La volonté personnelle, mais là, il manque maintenant la volonté gouvernementale. Le troisième qui est intéressant, mais c'est peut-être pas la meilleure solution, puis la ministre Bélanger a dit qu'elle n'était pas d'accord avec ça d'ailleurs, mais c'est de mettre en place des bureaux régionaux pour valoriser et favoriser l'utilisation des services à domicile. Ce que le rapport nous indique, c'est qu'une majorité de gens ne savent pas que ces services-là existent et donc ne font pas la demande. Imagine, on répond seulement qu'à 10% des besoins, puis c'est une majorité de gens qui ne demandent pas de soutien à domicile. Fait que si tout le monde se met à demander du service à domicile, là, ça ira pas bien. Le système est pas fait pour ça. Fait que c'est pour ça que je pense qu'elle suggère des bureaux régionaux. Mais au moins, il devrait avoir une instance pour travailler en équipe, hein, que les municipalités soient là, peut-être les centres de services scolaires pour toutes les infrastructures. Il peut y avoir aussi, évidemment, les coopératives de soutien à domicile, tous les organismes communautaires qui travaillent avec les personnes âgées, la FADOC, ces groupes-là. Puis il y a des tables d'aînés un peu partout au Québec. Il faut que ces gens-là soient davantage impliqués, puis ça pourrait être l'objet là, au niveau régional de travailler ensemble. Le quatrième point que j'ai trouvé hyper intéressant, pertinent et nécessaire, c'est des crédits d'impôt pour les proches aidants. Ça existe, ils sont faibles, ils sont mal adaptés, ils ne sont pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui est éligible pour les recevoir. Et on sait, Kevin, que vraiment, les proches aidants, ce sont eux là, qui prennent soin des personnes âgées. Ce sont eux qui font le gros du travail là, quand vient le temps, là, quand il y a des gens qui vivent des choses, d'aller à leurs rendez-vous médicaux, etc. Donc ça, pour moi, là, ça serait une priorité là, de réajuster les crédits d'impôt au fait que le système n'arrive pas à répondre à la demande. Ben, les proches sont là pour aider. Puis ça, c'est plate, mais en ce moment, il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là non plus. Finalement, une que je trouve quand même drôle puis que j'aimerais ça qu'il se passe, c'est que le ministère encourage les innovations. Hein, c'est ça, on dit que le système est archaïque, qui vient d'une autre époque, qui n'est pas ajusté aux besoins des gens puis aux besoins du système actuel. Ben, si le ministère dit « OK, on a une enveloppe, là, puis toutes les innovations, on essaie, on fait des choses pour essayer, pour faire avancer, on s'inspire de ce qui se passe ailleurs, puis même ici, moi, j'ai toujours en tête là un petit bloc appartement qui est dans le Kamouraska, là, où ce sont des personnes qui ont toutes vendu leur maison, puis qui ont acheté le bloc appartement ensemble, puis là, ben, ils se font du partage de services. Un n'a pas d'auto, il va à l'épicerie avec les autres, un rendez-vous médical, l'accompagnement, tout ça, ils s'entraident. C'est un modèle qui est scandinave, mais aussi qui existe au Québec. Ça pourrait être des formes d'innovation financées par le ministère pour favoriser le maintien et l'autonomie des personnes chez eux. Bref, c'est un gros dossier. C'est un dossier qui fait en sorte que on doit se re-questionner. Puis je pense que le rapport de la commissaire, en tout cas, nous amène à se questionner. Puis maintenant, la volonté doit venir de la politique. Puis ouais. Pour avoir parlé avec plusieurs personnes dans le milieu de la santé de plusieurs régions suite à l'apparition de ce rapport, je m'aperçois qu'il y a une grande résistance au changement dans le système de la santé. On doit s'ouvrir, on doit faire preuve de créativité, puis se dire qu'il y a peut-être du bon dans un rapport comme ça qui a été quand même longuement étudié. Les données ont été longuement étudiées, sont basées sur des éléments là, quand même pas lancés à la va-vite, là. Donc, on doit écouter ce qui sort de là, puis s'ajuster. Puis il en va de l'avenir de nos aînés, puis même l'avenir du Québec. Là, c'est quand même pas rien En 2025, le quart des personnes auront 65 ans et plus au Québec.
Ouais.
Et, ça va passer par le soutien.
Et ce rapport-là, Marie-Ève, a été rendu public quand?
La semaine dernière, mardi dernier.
OK, parce que ça m'intéresse de le consulter. Probablement que c'est public là pour les gens qui souhaitent en apprendre davantage. Là. Donc, Joanne Castonguay, qui est une sommité aussi, là, c'est pas fait par n'importe qui. Donc, non, ça va être intéressant d'avoir davantage d'informations à ce sujet-là. Donc, pour les gens qui souhaitent en savoir un peu plus, là, c'est disponible au grand public.
Marie-Ève, il y en a quatre comme ça. C'est très facile à trouver, là, commissaire à la santé, Joanne Castonguay. Puis, effectivement, ils sont très intéressants, très bien faits à consulter.
Marie-Ève, on va se garder du temps la semaine prochaine pour parler des projets éoliens parce qu'on manque un peu de temps ce matin. Mais ça va être encore d'actualité parce que c'est quand même majeur ce qui a été annoncé la semaine passée, notamment par Hydro-Québec. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Clairement. Merci. Bye.
Bye-bye. Donc, Marie-Ève Proulx qui était là à la chronique.